Nous sommes reconnaissants dans tous les cas pour chaque parole que nous lisons, dans laquelle nous pouvons nous plonger, à laquelle nous pouvons adhérer intérieurement du fond du cœur. Et je pense que c'est une grâce indescriptible d'avoir ce lien avec Dieu et sa parole. Je ne pouvais m'empêcher de penser que lorsque Jean a commencé à écrire le dernier livre de la Bible, il a dit au chapitre 1, il dit au chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, au verset 2, et celui-ci rend désormais témoignage à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ à tout ce qu'il a vu. Apocalypse 1, verset 2. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps de l'accomplissement est proche. Je pense encore à ce matin avec une grande douleur, en particulier au fait qu'il se trouve toujours des personnes qui pensent avoir pris la sagesse de Dieu à la cuillère. Ici, il nous est clairement dit que Jean a été amené sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, et que nous n'avons qu'une seule tâche qui est de lire, de prendre en compte, de garder les paroles qu'il a entendues et ensuite écrites. Et de ne rien ajouter ensuite à ces paroles écrites afin que les fléaux ne s'ajoutent pas à nous. Ne rien ajouter de peur que la part de l'arbre de vie ne nous soit retirée. Et ainsi, que tous ceux qui viennent ici en ce lieu, sous le coup de la parole, se préparent intérieurement, en fait, au fait que nous ne pouvons et ne voulons pas faire autrement que de croire, de proclamer et d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Si quelqu'un vient avec d'autres motifs, il n'est vraiment pas à la bonne place ici. Je dis cela peut-être aussi parce que justement, la chère sœur s'est adressée à moi à l'issue du service divin du matin et s'est référée aux dernières pages du livre des Sceaux. Je ne sais pas exactement si je vais lire ce qui était dans le cœur ou l'esprit, mais je vais lire, et plus précisément de la page 349, premier paragraphe. « Car, de même qu'il est écrit, que personne ne connaît l'heure de sa venue, de même personne ne connaîtra le secret des sept tonnerres. » Cela nous suffit. Est-ce que cela nous suffit? Cela devrait nous suffire. Et si quelqu'un vient ensuite, même devant à la plateforme, et dit que tout cela a été révélé, alors soit l'esprit n'est pas tout à fait en ordre, soit les sens sont perturbés. Si Dieu a dit que cela ne devait pas être écrit et que cela reste donc un mystère total, laissons cela et faisons en sorte de respecter tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Si seulement nous nous occupons à faire ce que Dieu a dit dans sa parole, alors nous aurons alors peint sur la planche si nous nous conformons à tout ce que Dieu nous a déjà révélé dans sa parole. Jean témoigne de la même chose dans le même chapitre, Apocalypse chapitre 1, dans la dernière partie du verset 9. Moi, Jean, votre frère et compagnon qui est par avec vous à la tribulation, au règne et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais venu dans l'île appelé Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Vous pouvez nous croire sur parole. Il y a des gens sur terre qui sont nés de la semence de la parole et ce n'est pas de leur faute s'ils portent en eux la nature même de Jésus-Christ. Et s'ils sont reliés à Dieu par cette nature divine, par la parole et par l'esprit. Alors, en nous, chaque interprétation doit rebondir. On ne peut pas être une partie d'une interprétation. Ce n'est pas possible. Je voudrais lire quelques passages du prophète Jérémie, Jérémie 23, verset 21, puis le verset 28. Jérémie, chapitre 23, verset 21. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et pourtant ils sont pressés. Parfois même trop pressés. Un vrai prophète, il hésite encore, il a du mal, mais les autres, eux, ont eu le temps jour et nuit et bousculé les maisons, n'est-ce pas? Ils s'empressent de partir. C'est écrit ici, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Et pourtant, ils sont pressés. Je ne leur ai pas donné de mandat. Et pourtant, ils prophétisent. Cela aussi m'a été dit ici au début qu'il s'agissait d'une prophétie. Qui sont les prophètes? S'ils ont quelque chose à dire, qu'ils viennent donc ici et qu'ils prophétisent ici, en ce lieu de devant. Et ensuite, en toute conscience, sans jugement, nous examinerons ce qui est dit sur la base de la parole. Et nous verrons alors si c'est vrai ou faux. Quelque part dans la chambre où se trouvent quelques vieilles tantes qui ne savent pas elles-mêmes où le soleil se lève, où il se couche, on peut facilement le faire. Non, dans la maison du Seigneur, là où la parole de Dieu a sa place, c'est là qu'elle doit être apportée. Et si elle vient de Dieu, elle subsistera devant la lumière de la justice. Devant la lumière et la justice. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait l'Urim et le Thummim. C'était les lots de lumière et de justice. Si quelqu'un disait quelque chose, il devait entrer dans le temple et se tenir devant le pectoral. Et si ce qu'il disait venait de Dieu, alors les lots s'allumaient. Et il y avait de la lumière. C'est pour ça que c'était appelé lumière et justice, lumière et droit. Il y avait la lumière. Mais si quelqu'un parlait et que la lumière ne brillait pas, oui, et alors quoi? Il pouvait raconter encore une fois ce qu'il voulait. Et la lumière ne s'allumait toujours pas. On pouvait alors lui taper sur l'épaule et dire, c'est là que le maçon a laissé la porte ouverte. Non? Lumière pour droit. Voici la lumière et le droit. Ici, ce n'est pas un homme qui juge. Ici, nous devons tous nous soumettre au jugement divin de la parole. Et celui qui a peur de se confronter ici au jugement de la parole, comment osera-t-il rencontrer le Seigneur au dernier jour et se confronter là, au jugement final? Mais écoutez ce qui est écrit au verset 22 ensuite. S'ils avaient vraiment tenu dans le cercle de mon conseil, ils annonceraient mes paroles à mon peuple et le détourneraient de ses mauvaises voies et de ses actes impies et de la méchanceté de leurs actions. Ils n'auraient pas fait du vent, mais ils auraient annoncé mes paroles à mon peuple. Et celui qui est de Dieu prononce la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Et le prophète Jérémie a eu une discussion particulière avec Hanania et ainsi de suite, des gens qui ont prétendu être prophètes et qui ont joué le rôle de prophète, n'est-ce pas? Mais le compte n'y était pas. Et puis il est dit ici, dans Jérémie 23, au verset 28, que le prophète à qui un songe a vraiment été accordé, le raconte comme un songe. Et que cela peut arriver que quelqu'un ait un rêve, un songe, et si le rêve se réalise, si le songe arrive, alors il n'est plus nécessaire de l'interpréter. Il a alors certainement été confirmé par sa réalisation. Mais alors, cela continue ici. Et que celui qui, à qui ma parole a été accordée, proclame ma parole selon la vérité. Mais cela la phrase continue. Celui-là qui proclame ma parole selon la vérité. La phrase ne se termine pas. C'est maintenant que se termine. Selon la vérité. Il ne renverse pas la parole ici ou là, ou ne l'applique que, pas de manière incorrecte, mais celui à qui ma parole a été donnée, qu'il proclame ma parole selon la vérité. Et puis, vient en fait un exemple qui nous vient facilement à l'esprit, qui nous fait tout de suite voir ce qui se passe. Et voici ce qu'il dit. Qu'y a-t-il de commun entre la paille et le blé? Il y a une très grande différence entre le blé et la paille. Et le Seigneur nous demande ici, qu'y a-t-il de commun entre la paille et le blé? Et là, sans être prétentieux, nous devons dire que très nombreux sont ceux qui battent la paille sans que le blé puisse être recueilli dans les greniers. Et nous ne voulons pas cela. Nous voulons que Dieu puisse lui-même appeler à sortir, fasse grâce et bénisse les personnes qui sont prêtes à le servir et à le suivre. Et nous voulons ici faire une distinction claire entre les rêves et la parole, entre la paille et le blé. Nous voulons que les paroles claires données par Dieu, que nous trouvons dans la parole, soient présentées tout aussi clairement, avec la même parole, comme preuve, afin que tous reçoivent l'enseignement divin. Il poursuit ainsi, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas ainsi comme un feu? C'est ainsi que l'Éternel s'exprime, et comme un marteau qui brise le roc. » Verset 30, « C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles, l'un à l'autre. » Et cela est à l'ordre du jour aujourd'hui. Les paroles du prophète sont volées ici et là. Puis on en fait ceci et cela, car aucun d'entre eux n'est envoyé par Dieu. Si vous voulez accomplir une tâche quelconque, n'est-ce pas? Alors, quand les gens veulent faire quelque chose, alors ils doivent voler les paroles du prophète, les sortir de leur contexte et y ajouter leurs propres paroles pour rendre la bouillie vraiment belle. Et celui qui n'a été qu'un peu à l'école du prophète, et qui n'a pas dormi sur ses deux oreilles, se met à crier, « La mort est dans le blé, est dans le plat, est dans le plat !» Si un tel mélange a lieu, il n'y a rien d'autre que la mort spirituelle dans la marmite. Et c'est pourquoi aucun mélange ne doit avoir lieu, mais la parole de Dieu doit rester claire et pure. Et pure. Il est ensuite dit ici, encore au verset 31, « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. » Oui, ils présentent ce qu'ils annoncent comme des proverbes de Dieu, comme étant la parole de Dieu, comme les oracles de Dieu. Et ils disent aux pauvres âmes, « Mais c'est très important, c'est ce que Dieu a dit, il faut maintenant l'exécuter. » Et les pauvres gens commencent à trembler et pensent maintenant devoir prendre cette menace au sérieux. Non. Nous n'avons de respect que pour Dieu et nous ne nous inclinons que devant sa parole. Car seule sa parole est la vérité. Tout le reste doit être soumis à un examen. Alors, bien sûr, cela va encore un peu plus loin au verset 32. Oui, sachez que j'en veux aux prophètes qui prophétisent des songes de mensonges. C'est là la déclaration de l'Éternel. Il les raconte à d'autres. Ils égarent mon peuple par leurs mensonges et leurs ruses, alors que je ne les ai pas envoyés, que je ne leur ai pas donné de mandat et qu'ils ne se sont aucune et qu'ils ne sont d'aucune utilité pour ce peuple. Telle est la déclaration de l'Éternel. Il s'agit bien sûr de paroles très sérieuses. Ils n'ont pas de mandat, ils n'ont pas d'envoi. Ils mélangent tout, ils en font un mensonge et ils le racontent au peuple de Dieu. Ce qui me concerne ici, ou ce qui me frappe, ou m'émeut intérieurement, c'est le fait qu'il est écrit ici, « Il le raconte à mon peuple. » Et le peuple, écoute, il suffit que quelqu'un vienne faire quelque chose d'important, se faire valoir qu'il y ait des révélations ici et là, et tout est déjà dans l'oreille, sans que l'on remarque que les gens n'ont aucun envoi, aucun mandat, aucun ordre divin. Ah oui, j'ai failli oublier, c'est ici que Frère Branham a dit, si chaleureusement et si intimement, ce dont je me réjouis sincèrement, que s'il n'a pas déjà accompli ce service, il est là où a au moins posé les fondations pour celui qui viendra après lui. Et celui qui a fait cela, oui, amen, oui, vraiment beau. Et celui qui lit cela correctement saura très bien que Frère Branham attendait encore un autre ministère, que cette première phase a constitué le fondement de la suivante. Les Saintes Écritures n'ont fait état que de 7 messagers dans la droite du Seigneur. Pas de 8 ou de 9, mais de 7. Et je l'ai déjà vu ainsi dans la parole, je l'ai lu ainsi. Alors qu'en 1963, mais il y avait quelqu'un en 1968 déjà qui disait que je suis maintenant le successeur, et ainsi de suite. Et alors je lui ai déjà dit à l'époque, dans la main du Seigneur, il n'y avait que 7 anges pour les 7 églises. Et tu penses être le 8e? Je te demande, dans la main de qui tu es? Dans la main du Seigneur, il n'y avait que 7. Et maintenant, si cela dépasse le nombre 7, dans la main de qui se trouve le 8e, le 9e ou le 10e? Non, cela ne se passe pas ainsi. La parole de Dieu est pour nous le guide et le restera pour l'éternité. Il n'y a qu'une chose à faire. Gérer fidèlement ce que nous avons reçu de Dieu, le transmettre, distribuer la nourriture spirituelle au temps convenable et ne pas mal comprendre les choses. Vous savez que Paul aussi a parlé à la 3e personne dans 2 Corinthiens au chapitre 11 et a dit, « Je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. » Je ne sais pas s'il était hors de son corps ou dans son corps, mais je sais une chose, c'est qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas encore prononcer ici. Et cela, et celui qui lit correctement la chose pourrait dire, « Paul, tu as été cet homme, n'est-ce pas? » Il n'y a pas besoin de chercher un tiers. Ensuite, on va à l'expéditeur et on sait qu'on a alors le bon destinataire. C'est ce qui s'est passé parfois avec les prophètes aussi en ce qui concerne Frère Branham. Il a dit clairement et il attendait encore de grandes choses de Dieu. Et nous croyons effectivement que les grandes choses qui doivent se produire dans l'épouse seront directement liées au retour du Seigneur et il s'y passera encore de grandes choses. J'en suis convaincu à 100%. L'Église épouse sera couronnée par la plus grande victoire de tous les temps. Toute la victoire de Golgotha sera manifestée. C'est alors que j'ai reçu un appel téléphonique, probablement avant-hier, me demandant ce qu'il en était de la parole qui nous dit qu'au retour du Seigneur, notre âme et notre esprit, ainsi que notre corps, aura été préservé de manière irrépréhensible et parfaite. Je ne l'ai pas encore relu, mais c'est un peu ce qui est écrit de cette manière. Et cela sera ainsi. Dieu a racheté l'homme tout entier. Il n'a pas encore été manifesté que notre corps est déjà inclus d'une manière ou d'une autre dans ce programme de Dieu. Mais nous l'avons lu ici et nous savons que les Saintes Écritures disent à ce sujet. Et nous savons ce que les Saintes Écritures disent à ce sujet, à savoir dans 1 Corinthiens 15. Et nous devons attendre que cette heure sonne et que nos corps soient alors eux aussi changés. 1 Corinthiens 15, je lis ici à partir du verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, naturelle. Le dernier Adam est devenu l'esprit qui crée la vie. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est naturel qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est d'origine céleste. C'est l'Éternel du ciel. Tel qu'est l'homme terrestre, tel aussi sont les hommes terrestres. Et tel qu'est l'homme céleste, tel aussi sont les hommes célestes. Le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce sont des promesses auxquelles Dieu se tient et que Dieu accomplira aussi sûrement qu'il l'a dit. De même que nous venons maintenant sur terre d'après le premier Adam, de même nous venons tous spirituellement d'après le deuxième Adam, à la manière de Jésus-Christ notre Seigneur. Et comme nous portons sur nous, sur terre, l'image du premier Adam, nous porterons tous sur nous l'image du céleste. Paul ne nous laisse pas non plus dans l'ignorance à ce sujet. Il dit ici au verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Regardez, et c'est ce que nous attendons. Nous l'attendons. Et cela arrivera parce que Dieu l'a dit. Mais nous devons effectivement attendre l'heure et le moment où cela se produira. Où cela se produira. Pas quand nous le voulons, mais quand Dieu le voudra, cela arrivera. Je voudrais encore lire un passage de l'évangile de Jean pour souligner l'importance de la parole et le fait de rester dans la parole afin de ne pas tomber dans une quelconque interprétation. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, dit le Seigneur, dit, peut-être allons-nous lire tout de suite le verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai adressée. » Il faut recevoir la parole de Dieu en soi et le faire vraiment de tout son cœur, sans aucune résistance. Ce n'est qu'alors que nous avons en nous la preuve que nous sommes devenus un avec lui. Dans Jean 17, au verset 14, il est écrit: je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Jean 17, verset 14, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. En tant qu'enfants de Dieu, qui avons reçu la parole, nous ne pouvons pas nous attendre à être reconnus dans ce monde. Au contraire, nous devons nous attendre à être rejetés. Et si nous ne l'avons pas, nous devons nous demander ce qu'il en est de nous si nous ne sommes pas rejetés. Aucun prophète n'a été reconnu dans ce monde, pas même notre Seigneur. Tous ceux qui ont parlé au nom du Seigneur ont été rejetés. Et comme il a été dit ici, ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Et alors, nous savons aussi ce que notre Sauveur a dit dans Jean 13, au verset 20. Jean 13, verset 20, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Nous avons lu dans le prophète Jérémie que des hommes ont couru sans avoir reçu d'ordre. Ils ont parlé sans que Dieu le leur ait dit, sans que Dieu ne leur ait parlé. Ils ont égaré le peuple. Et le Seigneur a dit, si vous vous étiez tenus dans le cercle de mon conseil, vous auriez annoncé ma parole à mon peuple. Je crois que cela aussi est très clair, que toute personne envoyée par Dieu proclame les paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu sont toujours parvenues aux vrais prophètes. Nous ne nous cachons pas le moins du monde. Et nous nous garderons bien de le dissimuler. Que Dieu a aussi eu dans notre génération un homme particulier, comme il n'en a pas eu depuis près de 2000 ans sur cette terre. Un homme envoyé de Dieu avec un message divin pour ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu. C'est lui qui a montré que toutes les dénominations s'étaient éloignées de la parole et avaient été victimes de leurs propres interprétations. Mais maintenant, nous devons nous aussi veiller à ne pas être à nouveau victimes de nos propres interprétations. Et vous pouvez le croire ou non. Mais j'espère que mes frères de la République populaire de Pologne ne transmettront pas ce que je vais dire maintenant. Mais là, près d'un arbre, un frère est tombé et est bien sûr mort. Et justement, les gens qui ont mis l'accent sur la révélation des sept tonnerres ont organisé une fête de joie dans le cimetière. Ils ont poussé des cris de joie et des cris d'allégresse à tel point que tout le monde incrédule n'a pas compris ce qui pouvait se passer sur terre. Bien-aimé, tout homme qui est croyant sait se comporter en tout temps et en tout lieu. Les croyants sont les personnes les plus faciles à vivre Et si quelqu'un a ne serait-ce qu'un peu de théâtralité avec lui-même, vous pouvez éviter une telle personne. Celui qui est vraiment spirituel sera tout à fait naturel dans les choses naturelles. Et celui qui ne peut pas être tout à fait naturel dans les choses naturelles, celui qui pense devoir être spirituel dans les choses naturelles, celui-là est sur une autre voie. Il doit faire marche arrière. Il doit changer d'aiguillage. L'homme spirituel juge tout et n'est jugé correctement par personne. Mais il peut en principe se plier et s'envoyer dans n'importe quelle situation sans se faire remarquer. Avez-vous compris cela? C'est très, très important. Si un croyant se fait remarquer quelque part dans les choses de la terre, faites attention, quelque chose ne va pas. Les croyants agiront naturellement dans les choses naturelles. Elles agiront de manière terrestre dans les choses de la terre. Ils auront les deux pieds sur terre et le cœur au même moment au ciel en contact avec Dieu. C'est très très important. Celui qui ne peut pas faire cela, mais qui pense qu'il doit toujours être pieux, qui doit toujours faire la tête et qui doit toujours dire quelque chose, même si cela ne convient pas du tout. Alors, nous devrions probablement accepter une correction. Mais revenons au ministère que Dieu nous a donné dans cette génération. Je suis de tout cœur de ceux qui sont le plus profondément, et le plus intimement convaincus que depuis les jours de Jésus-Christ et des apôtres, il n'y a jamais eu de ministère comparable à celui de frère Branham. Cela a été ainsi ordonné par Dieu parce que nous vivons maintenant à la fin du temps de grâce et que nous sommes entrés dans une période prophétique afin que le conseil divin du salut nous soit annoncé et présenté par révélation divine de la bouche d'un homme appelé. Mais malheur à nous, si nous avons l'esprit d'idolâtrie et si nous faisons ensuite de l'homme quelque chose. Cela aussi existe, comme au jour de Moïse, lorsque Moïse resta 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Les Israélites dirent à Aaron, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Et c'est ce qui s'est passé. Nous savons tous à quelle vitesse cela s'est passé. Il a dit, « Donnez vos boucles d'oreilles, vos anneaux de nez. » Et c'est ainsi qu'il les a tirés par les oreilles et les a menés par le nez. Puis il a fait le veau d'or. Et puis il a dit encore, « Voyez, c'est notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Oui, mais ce n'est pas tout. Savez-vous ce qui était le pire? Que le peuple ait fait de la musique, qu'il ait poussé des cris de joie. Et quand Moïse est descendu de la montagne et qu'il a entendu ces cris de joie, il a d'abord pensé qu'une grande victoire venait d'être remportée et que cette victoire allait être célébrée. Mais quand il s'est approché, il a vu que ce n'était pas une grande victoire qui était célébrée, mais une très mauvaise défaite idolâtre. Le Seigneur Dieu venait de dire, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, ni des choses qui sont en bas sur la terre. » Le Seigneur Dieu venait à peine de prononcer ces paroles, que ce commandement était déjà transgressé en bas chez le peuple. Et c'est exactement la même chose qui s'est répétée dans notre génération. On fait en un tour de main dans le camp de Dieu, parmi le peuple de Dieu, car les autres ne sont pas plus insensés que les croyants, n'est-ce pas? Nous le savons tous. Personne n'est plus crédule que les croyants. Personne ne croit plus facilement que les croyants. Et tout le monde pense que tout le monde a de bonnes intentions à leur égard. Et ce n'est pas justement le cas. En un clin d'œil, un nouvel enseignement est célébré comme une révélation. Et les gens tombent dans le panneau. Et là, on se réjouit et on s'agite. Et les gens pensent, oui, c'est une chose glorieuse. Oui, qu'y a-t-il de glorieux là-dedans? Qui était ici en Hollande lorsque tous ont reçu l'esprit de Michaël pour combattre en notre faveur? Je n'étais pas là, mais nous étions quand même deux ou trois ici à regarder cela de cette manière. Les gens tombent par terre et pensent que c'est la puissance de Dieu. Ils sont hors de temps de les quatre pattes. Les quatre pieds, ils pensent qu'il s'agit là d'une bénédiction particulière. Que Dieu nous place sur des pieds de foi saints et qu'il nous donne la grâce de distinguer tout ce qui est fait par les hommes. Car c'est en grande partie l'ennemi qui se cache derrière et l'on revient toujours à l'arbre de la connaissance. Et c'est là que se trouve, comme toujours, n'est-ce pas, la mort? Non. Nous voulons résumer ici ce dont il a été question ce week-end et ce dont il s'agit en général. Il s'agit du fait que la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole n'est pas là pour être interprétée, pliée et ajustée par tous. La parole est là pour nous, pour que nous l'écoutions, la recevions, la croyons de tout notre cœur et attendions que Dieu agisse envers nous selon sa parole. C'est ce qu'il a promis et c'est ce qui va se passer lorsque nous lisons certains passages de la Bible. Nous devons encore attendre de voir comment Dieu les fera s'accomplir en détail. Ce n'est pas toi ni moi qui veillons sur les paroles de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui veille sur sa parole pour la faire s'accomplir. C'est ce qui est écrit. Je pense que le même prophète Jérémie sait probablement dès le premier chapitre à qui il est dit ici que Dieu lui dit qu'il veille sur sa parole. Oui, bien sûr, Jérémie, à qui il est dit ceci. Ici, Jérémie chapitre 1, versets 11 et 12. Jérémie 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche de l'arbre qui veille. Alors l'Éternel me dit, tu as bien vu. Oui, je veille sur ma parole pour la faire s'accomplir. Amen. Et nous devons voir juste. L'Éternel doit pouvoir nous dire, tu as bien vu. Et si nous avons vu juste, alors il nous criera à nous aussi. Oui, je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Et c'est là que réside maintenant le mystère. Puisque nous avons été désignés par Dieu, comme l'a été l'époux parole, nous devons nous aussi être l'épouse parole. Maintenant, nous devons recevoir la parole à nous. Et lorsque nous avons reçu à nous la parole de la promesse divine, Dieu ne veille pas seulement sur sa parole, il veille sur sa parole qui est en nous, parce que nous l'avons reçu de tout notre cœur, afin de réaliser et d'accomplir à travers nous la parole de la promesse divine que nous portons en nous. Ça, c'est le grand mystère. C'est pour cela que nous avons entendu les paroles de la promesse et que nous les avons reçues en nous. Je lis encore un peu plus loin. Au verset 13, la parole d'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots, etc., etc. On pourrait lire beaucoup de choses. Ce week-end, il s'agit pour nous de préciser et de faire comprendre au monde entier que nous n'avons ni le temps, ni l'utilité d'interpréter quoi que ce soit. Nous ne sommes pas destinés à courir après certaines interprétations ou des interprétations incertaines. Non, nous sommes destinés à recevoir la parole de la promesse ou les paroles de la promesse en nous. Et c'est pourquoi nous pouvons être sûrs que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Il y a des gens qui veulent absolument avoir la foi de l'enlèvement. Oui, qui ne le voudrait pas. Mais je vais vous dire en quoi consiste la foi de l'enlèvement. Toute foi, quelle que soit, dans quelle relation elle se tient, vient de la prédication, lorsqu'elle vient de Dieu. Et toute foi qui vient de la prédication vient de la parole de Dieu. Et si elle vient de la parole de Dieu, elle nous vient par les promesses correspondantes que Dieu nous a faites par grâce. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen par Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Comme les gens qui sont malades et qui veulent vivre une guérison divine, ils doivent entendre la parole de la promesse en rapport avec la guérison divine. Et par l'écoute vient la foi, et la foi entraîne le miracle. La puissance de Dieu devient effective par la foi. Effective par la foi. Je vous l'ai déjà dit ici, je suis ou je compte parmi ceux qui crient « aïe » ou bien plutôt que de demander à Dieu de les guérir. Mais c'est comme ça, mais quand j'ai été très imprudent la semaine dernière, le jeudi soir, en rangeant, je n'aurais pas dû faire le ménage. Si je l'ai fait, c'était dans la maison de Dieu, pas dans le garage. En tout cas, deux gros tubes de fer sont tombés sur mon pied droit. Puis il y en avait trois et un était plus long, deux étaient plus courts. J'en ai pris un et je n'ai pas pensé que les autres tomberaient automatiquement. Et les deux sont tombés tellement fort sur mon pied droit que je ne pouvais plus marcher. L'hémorragie est encore bien visible aujourd'hui. Je ne pouvais pas marcher. J'ai essayé de maîtriser le talon d'une manière ou d'une autre. Cela aussi n'a pas été sans crier. Et maintenant, il y avait la réunion de Salzbourg devant moi. La réunion de Zurich était aussi devant moi. Et à l'aéroport, je voulais me faire, sur l'aérodrome, faire conduire en fauteuil roulant parce que je ne pouvais pas marcher. Et c'était une très grande détresse. Mais je savais que c'était ma faute. Et venir au Seigneur, c'était un peu difficile. Mais pour qu'il m'aide. Mais heureusement, je suis arrivé à Salzbourg. Le cher frère m'a soutenu et m'a amené jusqu'à ce que je puisse m'aider moi-même. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Ensuite, le soir, avant d'aller me coucher, j'ai quand même invoqué le Seigneur. Et j'ai dit, Dieu fidèle, si je dois aller à la réunion comme ça demain, Tes enfants seront déçus de moi et feront naufrage dans la foi. Je ne peux pas partir comme ça. Et c'était littéralement comme ça. Je ne pouvais ni marcher comme ça, ni me tenir comme ça. Et que puis-je vous dire? J'ai fait une courte prière au Seigneur et j'ai remis ça au Seigneur. J'ai dit, Dieu fidèle, tout pouvoir t'est donné dans le ciel et sur la terre. J'ai été imprudent, j'ai agi en insensé. Aie pitié de moi, mais aide-moi. Et maintenant, vous pouvez me prendre au mot. Je me réveille le lendemain matin et plus d'enflure, pas de douleur. Je me lève comme s'il ne s'était jamais rien passé. Comme si rien ne s'était passé. Et vous savez que je suis vraiment très sobre. Je n'ai pas eu besoin qu'on me dise que ça allait se faire, mais j'étais content. Parce que imaginez-vous, oui, ma sœur, vous étiez là à Salzbourg. Si j'y étais vraiment entré avec un pied, certains en seraient certainement ressortis avec deux de la salle avant la réunion. Et cela ne devrait pas être le cas. Dieu ne veut pas que nous le déshonorions comme si nous faisions parfois des choses que nous ne devrions pas faire. Il est fidèle. Il a fait la promesse que ce que nous lui demandons, il le donnera. Et en particulier, lorsque nous crions à cause d'un besoin, s'il n'y a pas de détresse, la prière est un peu superficielle. Mais quand il y a un vrai besoin, nous crions au Seigneur à partir de notre besoin et nous nous réveillons le lendemain matin. Et savez-vous quel passage de l'Écriture s'est alors accompli? Le Seigneur donne aux siens pendant leur sommeil. C'est ainsi que cela peut arriver. La parole de Dieu s'accomplit pendant que nous dormons. Il fait prospérer le processus de guérison et nous nous levons le lendemain matin en disant oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai raconté auparavant, mais j'ai quand même essayé un peu comment tout cela se présente et se passe, n'est-ce pas? Mais voilà, tout allait bien. Tout est resté bien jusqu'à 7 heures et tout ira bien. Notre Seigneur est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Éternellement. Chers frères et sœurs, qui parmi vous ressent l'attachement au Seigneur et à la parole de Dieu? Dites Amen, une fois Amen. Cela doit être dans nos cœurs. Pas seulement une approbation avec l'intellect, mais réellement une foi du cœur qui nous anime, qui nous rend heureux et bénis. La foi en Jésus-Christ rend heureux et rend bienheureux. Nous avons entendu sa parole, nous n'y avons rien ajouté et nous ne le ferons pas à l'avenir. Nous attendons en vertu de la promesse, en raison de la promesse et avec l'intention que lorsque le moment sera venu, Dieu fera ce qui est juste de manière juste. Il dit, tu as vu juste, je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Il était écrit de notre Seigneur, je ne laisserai pas. Il était écrit de lui que je ne laisserai pas que son âme reste à l'enfer, ne permettrait ou ne regarderait pas que son corps voit la corruption. C'est ce qui est écrit. Et Dieu veillait sur sa parole, sur cette parole. Son âme ne resta pas dans l'enfer et son corps n'a pas vu la corruption. Car il y avait une promesse à ce sujet. Et Dieu veillait sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse sur les premiers-nés. Et Dieu veille aujourd'hui sur le premier-né, pardon. Et Dieu veille aujourd'hui sur sa parole que nous portons et avons reçue en nous. Si je peux vous dire cela, si je ne peux rien croire facilement et simplement, je peux croire que lors du retour de Jésus-Christ, nos corps mortels seront transformés, changés. Je peux le croire de tout mon cœur. J'ai moins de peine à le faire que pour la plus petite chose qui doit être guérie. C'est le même Dieu qui a dit cela. Et s'il vous plaît, rappelez-vous que ce sera alors une heure où aucun croyant ne se tiendra debout en demandant et en disant « Oh, bien-aimé Dieu, ne pourrais-tu pas ?» Ce sera alors l'heure de Dieu où cela devra se produire parce que le retour du Seigneur le présuppose justement, ou bien en rapport avec cela, il arrivera que ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront les premiers. Qui peut le croire? Que ceux qui se sont endormis ressusciteront premièrement. Et la personne ne devra faire d'effort pour croire. Ils sont déjà rentrés chez eux par la foi, dans la foi, et c'est par la foi qu'ils ressusciteront. Dieu y veillera. Et nous qui sommes vivants et qui sommes restés, nous ne nous inquiéterons pas. Nous pousserons des cris de joie et d'allégresse et verrons la parole de Dieu confirmée en nous. Soudain, nous nous regarderons les uns les autres. Et voici que c'est déjà fait. L'âge n'est plus visible. Les cheveux gris, plus rien. Les cheveux blancs, plus personne, tout jeune. Tout à coup, un changement s'est produit. Je le crois, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Quand notre Seigneur descendra lui-même du ciel avec un cri impérieux, les morts ressusciteront dans l'incorruptibilité, et les vivants seront changés, et ensuite nous serons enlevés. Vous savez ce qu'a dit cette dame qui était en surpoids lorsqu'un prédicateur a dit que nous devions tous être très légers pour pouvoir flotter vers le haut pendant l'enlèvement. Puis, au milieu de la prédication, elle a crié « Mon Dieu, que vais-je alors devenir avec mon poids ?» La pauvre femme avait beaucoup de kilos. Bien sûr, c'était vraiment beaucoup. Mais nous savons que le Seigneur changera. Il transformera, il mettra fin aussi à l'excès de poids et nous rendra à l'âge de la jeunesse. Pouvez-vous le croire? Je le crois à 100%. C'est ainsi que Dieu l'a dit, c'est ainsi que c'est écrit, sa parole reste vraie pour l'éternité. Il veille sur sa parole pour l'accomplir et nous en serons tous les témoins glorieux. Loué et exalté soit son saint nom. Alléluia. Amen. Amen. Levons-nous et remercions ensemble le Seigneur. Frère Franck a dit, peut-être as-tu encore quelque chose à dire? Oui, je pensais juste, Frère Rousse, nous devrions peut-être tenir compte de toutes les paroles d'avertissement qui nous ont été adressées en ces heures. Nous devrions vraiment les prendre à cœur. Nous devrions les prendre à cœur et agir en conséquence, faire en conséquence. Je crois que ce n'est pas un homme qui a parlé, mais que nous avons entendu la parole de Dieu. Et nous avons aussi entendu que la parole de Dieu a toujours raison. Et nous le croyons aussi de tout notre cœur. En tant qu'êtres humains, nous pouvons manquer. Frère Branham a dit dans l'un des sermons, je peux manquer, mais sa parole ne peut jamais manquer. Elle demeure. Et nous n'avons entendu rien d'autre que la parole de Dieu, et elle demeurera. Et nous devons en effet faire attention à nous, comme l'a dit notre frère, que nous restions dans les limites de la parole, que nous restions avec la parole. Sinon, cela pourrait nous arriver comme à tous les autres. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut et ce n'est pas ce que nous voulons aussi. Nous voulons pourtant aller avec lui quand il reviendra. Et je crois que ce sont les heures de préparation parce que nous savons que sa venue est proche. Nous avons aussi entendu dire que nous ne savons pas quand sera le temps et l'heure, mais nous pouvons le percevoir sur la base de la parole et des événements tels qu'ils se produisent tous, n'est-ce pas? Et l'homme de Dieu l'a dit à maintes reprises, et lui non plus ne le savait pas. Mais les apôtres aussi ont déjà beaucoup attiré l'attention du peuple de Dieu de leur temps sur le fait que la venue du Seigneur est proche. Mais nous sommes maintenant arrivés tout près de ce temps. Et que le Dieu fidèle, je voulais juste dire cela, qu'il nous accorde à tous la grâce de prendre ses paroles à cœur, et en particulier celles qui ont été prononcées cet après-midi. Car beaucoup, beaucoup d'entre eux sortent pour tromper le peuple de Dieu, pour lui faire croire quelque chose qui n'est pas du tout dans le plan de Dieu, qui n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Eh bien, j'ai aussi un peu écouté les cassettes et on ne peut que dire, comme la parole le dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Et j'ai dû dire directement, « Ce n'est pas la voix de mon berger. Ce n'est pas la voix de mon berger, non. » Et vous savez, alors, on ne peut pas non plus suivre. Oui, mais je crois que nous avons tous pu suivre la parole de Dieu aujourd'hui et en ces heures. Parce que c'était sa voix à lui, par la voix d'un homme, sa voix qui nous a parlé. Que son nom soit honoré. Pour cela, je suis très reconnaissant pour sa sainte et précieuse parole. Moi-même, je m'examine toujours et je me sens toujours très indigne. Et je crois que si nous nous éprouvons tous par la parole, nous nous sentirons tous indignes. Mais nous avons entendu qu'il nous a choisis et il nous a parlé et il parle avec nous. Oui, nous en sommes reconnaissants à Dieu. Amen. Peut-être chanterons-nous encore toujours fidèles à Jésus, toujours fidèles à Jésus. Toujours fidèles à Jésus, toujours fidèles à lui, fidèles à sa parole. Jusqu'à que nous entrons à la maison. Toujours fidèle à Jésus. Toujours fidèle à lui. Fidèle à sa parole. À sa croix. Jusqu'à que nous entrons à la maison. Adorons tous ensemble. Frère Schmitt, peut-être viendras-tu devant. Adorons maintenant ensemble et rendons gloire à Dieu. Nous élevons la voix ensemble. Ensuite, frère Schmitt va encore prier. Ah Seigneur, nous te remercions. Nous t'adorons. Dieu fidèle, tu as fait de grandes choses pour nous. Tu as racheté nos vies de la perdition. Tu nous as couronnés de grâce et de miséricorde. Tu nous as choisis avant même la fondation du monde pour que nous vivions dans la sainteté et la justice, mis à part, consacrés à Dieu pour le temps et pour l'éternité. Seigneur bien-aimé, nous avons entendu ta parole. Ta parole est notre nourriture. Ta parole est notre lumière. Ta parole est devenue une chose avec nous. Seigneur, bien-aimé, bénis puissamment, passe au milieu de nous, passe par nos rangs, Seigneur, dans nos rangs, enlève toute incrédulité, enlève tout de nous et glorifie toi-même ton nom. Confirme ta parole, Seigneur fidèle, loué sois-tu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu.